Pauline Pucciano, le Septentrion. Le prince double se mettait parfois à arpenter son refuge, laissant ses pas indécis le porter vers tel ou tel objet, accomplissant ainsi un voyage minuscule à travers les draperies usées, les étoffes ternies de poussière, les meubles au bois rongé, les lettres dont des larmes déjà anciennes avaient dilué l'encre, les miroirs au teint taché, les bijoux noircis. Toute la beauté de son passé gisait là, morte, corrompue par le temps. Mais il n'avait qu'à se laisser aller, et tout lui revenait, intact. Le parfum tiède et légèrement sucré de sa maison, le violet profond et le jaune tendre de ses fleurs qui poussaient, en une splendeur anarchique, entre les murs de pierre rouge et les grands cèdres, les chats du voisinage mollement alanguis au soleil, les étoffes précieuses damassées que portaient toujours les femmes de sa famille. Chaque souvenir semblait en appeler un autre à sa suite, et s'il se laissait aller assez longtemps, il finissait par composer un tableau sans objet et sans forme qui puisait directement à la matière de sa propre vie. Les visages de ses frères et sœurs les plus jeunes s'estompaient dans l'impitoyable anamorphose de la mémoire, mais il revoyait l'infime coquetterie dans les yeux de sa mère et son expression fatiguée et bienveillante ne s'était jamais altérée. Sa mère était morte à présent, et lorsqu'il songeait qu'il ne l'avait jamais revue, c'était comme si le monde entier se vidait de son sens. L'Orient. Dans ses souvenirs, il baignait dans un éternel printemps, et ses nuits violettes étaient toujours douces et lactées. L'Orient était le lieu de la parole sereine et du corps apaisé, le lieu du baume universel dont ses plaies aujourd'hui étaient si désespérément assoiffées. Solan, qu'il avait vu dans la journée, était plus pâle et son silence se faisait insondable. Drax n'avait pas essayé de rétablir le contact, car il savait, rien qu'à le voir, que c'était là le crépuscule de sa rémission, et que dans quelques heures à peine, le chancelier des terres boréales disparaîtrait à nouveau dans le gouffre blanc de ses délires morphinomaniaques. Nebelwyr rêvait souvent qu'il était capable de voler, mais cette nuit-là, son rêve prenait des proportions grandioses auxquelles il n'accédait que rarement. La sensation même d'être un être humain avait presque disparu au profit d'une sensation intense de vie et de puissance. Il parcourait un ciel vide à une vitesse onirique, emporté par des courants aériens qu'il lui semblait maîtriser à l'instar de son propre corps. Il n'était plus qu'un pur mouvement qui déchirait l'espace, une liberté absolue et solitaire survolant un monde oublié. Sa personne, miraculeusement effacée, faisait partie de toute cette terre pesante et étouffée dont il était parvenu à se libérer, et son esprit, devenu universel, illimité, était né à une autre existence. La voix de Nasht, toute mélodieuse qu'elle fût, ne le fit pas moins sombrer. Quelque chose l'attirait à nouveau vers le bas, contre sa volonté, et c'est au paroxysme d'une terrible impression de chute qu'il ouvrit enfin les yeux. Mon programme de déverrouillage automatique est enfin venu à bout des fichiers de Bartok. Ce sont des documents audiovisuels d'une durée moyenne de 15 minutes. Nebelwyr se releva, incapable de se souvenir de ce à quoi il avait été arraché. Que dis-tu ? Je parlais des fichiers verrouillés de la banque de données personnelles de Bartok. Nebelwyr se réveilla tout à fait et comprit à retardement les premiers mots de Nasht. « Lecture du premier fichier sur l'écran A, » ordonna-t-il. L'image était de qualité moyenne, sans doute issue d'une caméra de surveillance ou de contrôle, et montrait une salle entièrement nue et aveugle, baignée d'une lumière artificielle. On entendait quelques bruits indistincts provenant de l'extérieur du champ, puis une voix donna un ordre précis. « Faites-la entrer !» Une très petite fille entra dans la salle, visiblement poussée par quelqu'un, et la caméra fit un gros plan sur son visage. Elle portait les cheveux courts, paraissait un peu maladive, et le regard qu'elle portait, et que Nebelwyr reconnut tout de suite, contrastait douloureusement avec son corps minuscule, comme si on avait placé une intelligence d'adulte dans un cerveau d'enfant. La petite commença à avancer, tandis que la caméra s'éloignait de son visage, et la maladresse de ses mouvements, ainsi que sa conformation générale, firent penser à Nebelwyr qu'elle ne devait guère avoir plus de 3 ans. Une voix amorça un commentaire. Premier réflexe, avancer vers le centre. 83% des enfants de son âge restent à côté de la porte. À noter particulièrement, l'expression d'intérêt du visage, aucun signe de peur, ni même d'hésitation. Nebelwyr sentait qu'il était en train de violer un secret d'État, et, alors que la fillette s'immobilisait au centre de la salle, il se souvint de l'impression que lui avait fait Lioa à l'instant de son arrivée. L'enfant tournait la tête de tous côtés, comme attentive à quelque danger caché, puis, lorsqu'elle fut assurée de sa parfaite solitude, elle appela quelqu'un. La lumière s'éteignit brusquement, et la caméra se mit à filmer en infrarouge. Elle eut d'abord une expression de surprise, puis elle cria le nom une deuxième fois, plus distinctement, et d'une voix plus forte, où commençait à poindre la peur. À peine avait-elle lâché cet appel, que des raclements et des froissements assourdissants se firent entendre. La fillette désemparée se retournait vers la porte et commençait à courir, lorsqu'une femme entra par un autre côté, elle se posta dans un coin et attendit. La petite mit quelque temps à comprendre que la porte par laquelle elle était entrée était verrouillée, puis elle revint vers le centre d'un pas irrégulier, mal assuré, où l'on sentait maintenant l'effet d'une panique grandissante. Elle criait toujours le nom. Réflexe attendu, elle appelle sa protectrice, d'abord dans une situation qu'elle ne comprend pas, puis de manière plus pressante dans une situation menaçante. À noter, pas de crise nerveuse. Son sentiment ne l'empêche visiblement pas de se conduire de manière rationnelle. Elle cherche à sortir, puis, se rendant compte que c'est impossible, revient à sa stratégie initiale. Bien entendu, les bruits ont tendance à baisser d'intensité et la lumière à augmenter lorsqu'elle se tient immobile et silencieuse au centre. Nebelwyr remarqua qu'en effet le vacarme, qui paraissait suinter d'une porte de l'enfer, s'adoucissait très légèrement. La petite avait maintenant les yeux fixés sur un point devant elle, les pupilles étrécies. Son visage et son corps paraissaient tendus jusqu'à la limite extrême après laquelle elle se disloquerait comme un pantin brisé. Une lueur de joie s'alluma soudain dans son regard lorsqu'elle reconnut la silhouette postée à quelques mètres d'elle. Et elle cria à nouveau le nom, du plus fort qu'elle put cette fois, pour se faire entendre. La femme ne bougea pas. L'enfant se mit à courir vers elle, tomba dans sa précipitation, mais se releva sans pleurer et ne s'arrêta même pas lorsque la lumière se ralluma. Le vacarme devenait de plus en plus assourdissant au fur et à mesure qu'elle s'approchait de son but, et quand enfin elle put la toucher pour attirer l'attention tant désirée, des sifflements insupportables se mirent à fuser. La femme, raide et droite comme une statue, paraissait ne pas même voir la petite chose éplorée qui s'agitait sous elle. À chaque fois que la petite fille touchait le corps de la femme, le sifflement cauchemardesque retentissait, et l'enfant, terrifié, comme un gibier acculé, la tête presque renversée vers le visage de la femme, se mit à hurler. À cet instant, le vacarme cessa, et l'on n'entendit plus sur la bande que son hurlement inhumain, suraigu, qui dura quelques secondes avant de s'éteindre. La femme alors baissa la tête vers la petite qui suffoquait, et leurs regards se croisèrent un bref instant. Puis, sans un geste, la femme sortit lentement de la pièce et l'enfant la regarda partir, hébétée. Quand elle fut à nouveau seule, elle s'assit par terre et se recroquevilla sur elle-même, et le film s'interrompit sur cette image terrible et immobile. Nebelwyr arrêta la lecture, étreint malgré lui par une sorte de malaise. Le visage enfantin qu'il venait de voir allait désormais se superposer pour lui à celui de la Lioa déterminée et infiniment capable qu'il aurait devant lui. Et ce premier visage, qui était enfoui, méconnaissable sous le masque de l'autre, ce premier visage que Lioa n'avait jamais dû voir et dont elle avait dû oublier volontairement la souffrance, était la faiblesse héroïque capable de la détruire. Cela, Nebelwyr en avait conçu une certitude obscure dès les premières minutes du document. Il pensa à Bartok aussi, à sa fureur, à sa rigueur, à son obsession sans merci, et pour la première fois, éprouva pour la jeune fille une forme de pitié. « Je me demande si tu peux mesurer ce que tu viens de lire, » dit-il un peu distraitement. L'enfant est soumise à un programme de construction de la personnalité très strict, destiné à l'empêcher de compter sur une protection extérieure. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ceci est en contradiction avec les principes habituels qui régissent l'éducation des enfants humains immergés dans leur cellule familiale. Nébelouir ne put s'empêcher de rire. « Ta naïveté est aussi insondable que ta mémoire, » dit-il. « Tu vois, ce document m'en apprend beaucoup plus sur Lioa que tout ce que tu pourras jamais savoir sur elle. »« Que t'apprend-il » Nébelouir haussa les sourcils, car il était rare que Nasht posât une question. « Il m'apprend le moyen de la détruire, » dit simplement Nébelouir. Nasht ne répondit pas. L'expression d'une intuition la murait invariablement dans un silence absolu. Nébelouir resta songeur, encore un instant, à savourer l'importance de sa découverte, puis il fit redémarrer sa lecture, pétri d'une curiosité malsaine, qui oscillait entre l'intérêt scientifique du médecin et celui, plus trouble, du maître chanteur. Les années d'attente avaient été si mortellement lentes et si vides que la hâte aujourd'hui devenait par moments presque insoutenable. L'Océanie avait fini ses immenses préparatifs et la première alliance avait été scellée. Lyultide était passé d'un temps à un autre, brusquement, et ne comprenait pas comment il avait vécu si longtemps à ce rythme étouffé, maintenant qu'il était passé dans la fièvre de l'imminence, de la réalité et de l'action. L'attention qu'il avait respectée, observé, pensé pendant toutes ces années, lui semblait aujourd'hui une corde prête à se rompre. Il en ressentait presque physiquement la douleur et n'aspirait plus qu'à la rupture finale. Celle-ci surviendrait inexorablement et, selon toute probabilité, surviendrait bientôt. Cette pensée seule avait le pouvoir de calmer sa hâte dévorante. Par moments, il se voyait, lui et ses 9 pères, tapis dans l'ombre, tramant éternellement les mêmes motifs monstrueux, leur raison tournant à vide dans un cercle démoniaque. Et puis l'espoir le reprenait, et il réexaminait la flotte et réévaluait pour la 100e fois les données stratégiques, ivre déjà de son aboutissement à venir. Atalion, l'archityran du Méridien, lui avait été d'un grand secours. Le Méridien, malgré sa pauvreté, représentait tout d'abord numériquement un potentiel offensif important. Ensuite, le simple fait d'avoir un allié, de partager enfin des intérêts trop longtemps secrets, avait soulagé son esprit en lui démontrant que son rêve prenait corps en dehors de lui-même. Enfin, la personnalité d'Atalion, si diamétralement opposée à la sienne, avait apporté un repos à ses inlassables réflexions. Atalion était né avec son titre et jouissait, par l'exercice de sa tyrannie, d'un plaisir toujours renouvelé, infatué de lui-même, profondément égoïste et d'une intelligence moyenne que celle de ses homologues faisait paraître médiocre, il ne possédait aucune des qualités humaines ou politiques que Lyultide aurait souhaité rencontrer en lui. Pourtant, sa fréquentation lui avait apporté une paix incomparable, car il échappait miraculeusement aux sombres déviances qui s'étaient emparées des autres et demeurait, en ce pandémonium étrange, aussi humain, aussi tranquille, aussi normal que s'il eût été ailleurs. Lyultide, sans se méprendre sur les causes de ce miracle, qui prenait racine dans une piètre conscience du monde, en appréciait cependant les effets et recherchait la compagnie de l'architiran avec une certaine assiduité. La maladresse d'Atalion lors du dernier conseil des 10 l'avait certes contrarié, mais de manière superficielle. Il eût préféré en user plus finement, mais était en son fort intérieur très soulagé de la publication de leur accord militaire et très heureux que Lioa fût mis au courant de cette façon. Il n'osait lire dans le regard qu'ils avaient échangé l'assentiment qu'il convoitait. Le Septentrion n'était sans doute pas prêt à pénétrer dans une organisation de puissance mineure. Pourtant, ce regard devait signifier quelque chose qui ressemblait au moins à un doute et qui laissait toute leur légitimité à ses espoirs. Paralysé par la peur du faux pas, cependant, il ne la contacta pas, et passa tout le temps dont il disposait avec Atalion, dont la conversation badine arrivait encore à tenir à distance le démon tyrannique de sa propre impatience. Depuis la rechute de Solan, le prince double n'était plus en paix. assailli par des visions anarchiques, de plus en plus fréquentes, il gardait l'impression constante de se tenir sur une sorte de frontière que quelque chose lui interdisait de franchir complètement. Ces visions l'avaient toujours pris au dépourvu et s'étaient souvent imposées avec violence, mais il n'avait jamais, comme en cette période, éprouvé le sentiment qu'elle le dévorait et planait au-dessus de sa conscience pour fondre sur elle et la détruire. Il savait que sa double vue se développait consubstantiellement à son mal et que l'accélération de ses états de transe indiquait aussi une défaite de son corps, mais cela lui importait moins que la folie qu'il sentait poindre et contre laquelle il luttait. Peut-être cette lutte eût-elle été plus facile s'il avait pu discerner un sens dans ses rafales d'images, mais elle prenait des formes si étranges et paraissait d'une heure à l'autre si différente qu'il ne pouvait se concentrer sur aucune continuité et devait se résigner à être la proie de leur tyrannie absurde et incessante. Certaines lui montraient des scènes d'Orient, des disputes conjugales dans des familles qu'il n'avait jamais vues, des paysages déserts ou habités, des membres de sa lignée lui parlant dans une langue inconnue, d'autres le mettaient en scène lui-même dans des situations incompréhensibles, d'autres enfin lui révélaient d'obscures séquences de l'avenir du monde où le manque et la destruction se disputaient une humanité effondrée. Ce soir, Drax supportait mal le divorce de son esprit errant et de son corps paralysé. Il eût aimé s'abandonner à sa faiblesse et se laisser engourdir par sa propre immobilité. Les visions l'avaient harcelé aujourd'hui plus encore que de coutume, et il en restait dans sa mémoire quelques traces résiduelles, ainsi qu'une sensation de peur indéfinissable. Il s'allongea, toutes lumières éteintes, espérant que le sommeil ne lui dispenserait aucun rêve, mais sitôt qu'il eut fermé les yeux, comme une machine impitoyable, tout un univers illusoire se mit en marche dans son esprit, et, avant de succomber à la puissance irrésistible de son hallucination, pour la première fois, il souhaita mourir.